téléspectateurs, vous.
J'ai entendu ça aux
infos.
Les réseaux sociaux,
les chrétiens, les téléspectateurs. Bonjour à tous, l'instant M, ça passe vite et ça en dit.
Merci d'être avec nous ce soir.
C'est ça quand on est en direct.
Autour de la table et dans le désordre, Gilles Boulot de TF1, David Pujadas, France 2 et Alexandra Bensaïd, la locale de l'étape. Comme dirait David Pujadas, c'est la voix dont n'arrête pas l'écho sur France Inter, dont les téléspectateurs découvriront le visage ce soir au cours du débat de l'entre-deux-tours codiffusé par nos chaînes respectives. Bonjour à tous les trois.
Bonjour Sonia.
Elle est contente d'être la locale de l'étape.
Bah écoutez,
elle est contente d'être la locale de l'étape. Je n'ai pas tiré vos places au sort. Votre temps de parole ne sera pas chronométré. Je vous ai réunis parce qu'il s'est passé trois choses ces dernières semaines. D'abord, condamner le brouhaha médiatique stérile et bas de plafond de la parole politique en campagne. Les observateurs ont été forcés de rendre les armes. Le débat de la droite, les débats de la droite et du centre ont été massivement suivis par les téléspectateurs. Ensuite, sans ces échanges filmés, François Fillon n'aurait sans doute pas ainsi émergé. Serait-ce la revanche de la bonne vieille télé ? Oui, c'est une question. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé entre le deuxième et le troisième round pour que les journalistes en plateau se fasse ainsi attaquer.
L'instant M, c'est aussi en vidéo sur franceinter.fr.
Ils sont sept, l'un ou l'une d'entre eux sera dans six mois le candidat de son camp à l'élection présidentielle.
Bonsoir à tous, bonsoir à vous Laurence, je suis particulièrement heureuse de vous avoir à mes côtés ce soir.
Bonsoir.
Pour ce deuxième débat des primaires de la droite et du centre.
Bonsoir, bonsoir à tous. Sept candidats à trois jours du vote, bienvenue pour cet ultime débat.
Codiffusion TF1 France 2 France Inter, lequel d'entre vous va ouvrir l'antenne ?
On n'en a pas encore parlé.
Non,
non,
je ne sais pas.
Parce qu'évidemment, c'est un enjeu stratégique d'ouvrir l'antenne. Non,
non, pas trop. Non. On n'a pas tiré au sort et on est encore dans la phase de gestation assez fine du débat, de la rédaction des questions, de la chorégraphie des questions et pas du tout. Qui va ouvrir le feu et qui va fermer le banc ?
Celui qui ouvre l'antenne, c'est l'un des deux autres qui pose la première question. C'est ce que vous aviez fait au premier débat, Gilles Boulot, vous avez ouvert l'antenne. Et c'est Elisabeth Martichoux, votre partenaire d'RTL, qui avait posé la première question à Jean-François Copé.
Oui, je pense que c'est sans doute comme ça que ça se passera. Mais c'est pour que le débat soit fluide, équilibré, qu'il y ait voilà, des timbres de voix, de personnalités qui se suivent. Qu'il n'y ait pas des gros blots avec quelqu'un qui serait absent, qui pourrait aller boire un coup pendant un quart d'heure pendant que ses camarades posent des questions.
Y aura-t-il du public autour de vous ?
Il y aura du public derrière nous, si j'ai bien compris, et bien observé la scène.
Voilà, avec des invités, des candidats ?
Quelques-uns en nombre limité, mais le public sera en moins grand nombre que dans les débats précédents. Parce que le studio est plus petit, il est plus petit parce qu'il n'y a plus 7 candidats, il n'en reste plus que 2.
Voilà, et des candidats pas en face-à-face, d'après ce qu'on a compris, d'après ce qui circule ?
Quasiment vis-à-vis, mais légèrement de biais, et encore une
fois, à l'américaine.
Le public est à l'américaine, si
vous
voulez.
Ah ben, on a tous des débats américains dans la tête, là, forcément, on a des images.
On commence aussi à avoir les débats français, peu à peu, il y a quand même eu des débats il y a 5 ans aussi. Et le public, effectivement, derrière.
Débat massivement suivi, je l'ai dit, le premier, 5,6 millions de téléspectateurs sur TF1, le second, 2,8 sur BFM et iTélé, le troisième, 5,1 sur France 2. La télé reprend-elle ses droits dans une période où la campagne se dilue 24 sur 24 sur les réseaux sociaux et les sites d'info, David Pujadas ?
La télé, je pense qu'elle n'a jamais perdu ses droits. Je pense que l'élection de 2007 s'est largement faite à la télévision. Je pense que l'élection de 2012 s'est largement faite à la télévision, mais pas forcément en tant qu'organisatrice, mais en tant que diffuseur. C'est-à-dire que ça passe aussi quand même par les meetings qui sont retransmis, non seulement à partir d'extraits dans les JT, mais désormais en continu sur les chaînes d'infos. Donc la télé reste, à mon avis, une chambre d'écho majeure. C'est pas vraiment une nouveauté. C'est vrai que cette fois, on a le sentiment que les débats ont concouru directement au choix qui s'est fait dimanche dernier.
Gilles Boulot.
Mais David, ce qui a dû te marquer, c'est qu'un certain nombre d'entourages d'hommes politiques ou des politologues, des sondeurs ont dit « attendez, les débats ne changent pas la tectonique des plaques. » C'est-à-dire que vous pouvez débattre infiniment, le leader restera leader, l'outsider restera outsider.
Alors, dans la sociopolitique,
on a illustré la preuve que c'était faux.
Voilà, dans la sociologie politique, en règle générale, on prétend, on dit, on affirme, et chiffre à l'appui, que le débat n'est là que pour convaincre des convaincus.
Mais vous savez pourquoi aussi ?
David
Pujadas. Parce que le débat de la présidentielle, le débat de l'entre-deux-tours, les débats qui peuvent avoir lieu avant, s'adressent à tous les Français. Or, quand c'est une élection qui concerne tous les Français, l'élection présidentielle, chacun effectivement, a une affiliation. Et il est beaucoup plus rare qu'on change de camp, donc qu'on change de candidat. Là, on s'adresse quand même à la France de droite et du centre. Donc, au sein de cette France de droite et du centre, on peut comprendre qu'il y ait plus de volatilité et donc que le débat ait plus d'importance aussi.
Gilles Boulot. Et puis, sur la facture du débat, les débats entre les deux candidats à l'élection présidentielle, le débat est forcément codifié, corseté, enfin c'est de la cuisine, mais les plans de coupe, pas de plans de coupe. Là, il y avait totale liberté de réalisation. Ça change beaucoup. Il y a le dit et le non-dit dans un débat. Quand vous avez le candidat B qui opine du chef, quand le candidat A a dit quelque chose, ça veut dire « je ne crois pas un mot de ce que tu as dit » ou quelque chose comme ça, ça change tout. Donc la liberté de réalisation, le fait que ce soit, pardon de le dire, aussi un programme télévisuel, ça change beaucoup de choses.
Alors, programme audiovisuel et télévisuel encore et encore. Est-ce que vous avez lu le coup de gueule de BFM TV publié hier en pleine page dans Libération, entre autres, je cite, la chaîne purement et simplement exclue du débat de ce soir. Les temps ont changé, le monde politique doit s'adapter à l'évolution du paysage audiovisuel. La première chaîne d'info de France doit avoir sa place. Vous, téléspectateurs, vous y avez droit. C'est une question de pluralisme. Réaction ? David Pujadas.
Bah, Alain Veil et Hervé Béroux sont très forts pour provoquer les débats. Et puis, ils ont raison de tenter ça. Voilà. Après, on peut se dire M6 exclu, France 3 exclu.
C8 exclu, toutes les chaînes qui font de l'info.
Voilà, à un moment donné, il faut fixer...
En réalité, c'est une façon de se positionner pour le futur prochain débat de l'entre-deux-tours.
Ils ont raison de le faire.
C'est
une bonne guerre. Disons simplement que là, le signal de ce débat est beaucoup plus largement accessible que les autres fois. Toutes les radios, par exemple, vont pouvoir diffuser ce débat. Les chaînes d'infos en continu, en direct, tout à fait, Gilles. Et les chaînes d'infos en continu vont pouvoir le diffuser à partir de minuit. Elles en auront de larges extraits. Voilà, mais de très gros extraits avant qui vont au-delà du droit de citation. Donc, je ne dirais pas que la démocratie est menacée.
Ni que le pluralisme est en danger.
Non plus.
Bien. Alors, les débats télévisés ont-ils fait la différence pour François Fillon ? Manifestement, oui, à moins que...
Je peux parler d'un sujet qui fâche. Vos sourcils.
Qu'est-ce qu'ils ont, les sourcils ?
Mais vos sourcils ont une vie autonome.
Je ne me regarde pas.
Hein. Oh, c'est pas vrai. Après tout ce que vous venez de me dire, vous ne vous regardez pas ? Je suis la seule à vous parler de vos sourcils dans le monde ?
Je parle pas tant que ça. Hein.
Vous n'avez jamais pensé à vous épiler un peu ?
J'aime bien les choses naturelles. Voilà.
Bon, on ne parlera pas de votre sous-bras, d'accord.
Et le canapé de Karine Le Marchand a-t-il fait la différence ?
Encore la télé.
Encore la télé, oui, absolument. Encore la télé, David Pujadas. Une autre télé. Les deux coexistent ? Manifestement, oui.
Factuellement, les deux coexistent. Les deux concourent-elles à forger l'opinion que les citoyens se font de M. Fillon, de M. Juppé ? Bah oui, on peut le déplorer, on peut le constater, oui. Après, David est libre et Alexandra aussi. Moi, je ne poserai pas de questions sur le système pileux de M. Fillon.
Non, voilà, aucune question sur les sourcils.
Alexandra,
non plus. Ah, aucune question sur les sourcils.
David Pujadas ?
Non, mais cette émission, je l'ai regardée. C'est une bonne émission, c'est pas une émission politique.
C'est une émission avec des politiques.
C'est une émission avec des politiques. Je pense qu'il faut la regarder pour ce qu'elle est.
Alors, l'émission politique en prime time, là je parle de l'émission politique avec un E majuscule.
Elle aussi, elle a fait beaucoup pour Fillon.
De France 2, voilà. C'était le 27 octobre. Est-ce que c'est pas là que le statut de François Fillon a quand même basculé ? Parce qu'il faut quand même se souvenir que début octobre, quand on reprend les sondages, il est le troisième homme à égalité avec Bruno Le Maire et que rien ne les différencie dans les chiffres d'Alexis Pujadas.
C'est vrai, l'émission politique, je pense qu'elle a un rôle fondateur. Mais elle venait après le premier débat,
et là,
où il s'était déjà produit quelque chose pour François Fillon. Ensuite, dans cette émission politique, il a en quelque sorte inauguré son registre anti-système, anti-média, en mettant en cause l'architecture de l'émission,
en n'hésitant pas... Notamment la présence de Charline Vanhoenacker
avec
son billet d'humour en clôture de l'émission.
Par exemple, et je pense que ça a fait quelque chose pour Fillon, qui s'est installé d'une certaine manière sur le créneau de l'authenticité, et donc sur le créneau de celui qui n'hésite pas à parler librement, à remettre en cause le
système. Alors Gilles
Boulot,
vous étiez à la manœuvre du premier débat octobre. Ouais. Et en même temps, vous avez vous aussi une grande émission politique sur TF1. Vous n'avez pas invité Fillon.
Pas encore.
Pas encore ?
Pas encore.
Erreur de casting quand même en cette rentrée ?
Non, pas du tout. Mais nous, on fait une émission le dimanche, qui est une émission événementielle à périodicité irrégulière. Juppé, Manuel Valls, Marine Le Pen, le 11 décembre, Emmanuel Macron, et pas ou pas encore, François Fillon. Mais juste un mot sur le premier débat. Je crois que François Fillon, ou ses conseillers, ont lui dit « il faut que tu fasses preuve d'autorité ». On parlait du langage corporel, etc. Et beaucoup de choses qui sont passées dans les trois débats au profit de François Fillon, ça a été parce qu'il a dit à maman, stop, j'arrête, je suis le délégué de classe, je me révolte contre les journalistes. Et donc, c'est pas tellement que son argumentaire a été plus ou moins pertinent que celui des six autres. C'est qu'il a rompu un peu la ligne en disant stop.
Alors, le délégué de classe, on va l'entendre et en même temps, on sent bien dans les extraits qu'on a sélectionnés qu'il y a une forme de connivence. C'est quasi comme si c'était donné le mot lors de ce dernier débat.
Monsieur Elkabbach, je suis candidat à la primaire. Ça mérite tout simplement le respect de votre part.
C'est tout le problème de la conception que vous avez de plus en plus de ces débats. C'est une conception qui est une conception en termes de spectacle, pas en termes de fond.
Écoutez, je ne sais pas s'il y a eu beaucoup de spectacle ce soir.
Je sens que c'est parti pour être un débat entre les journalistes et les candidats plutôt qu'entre les candidats.
Vos termes.
Vous voulez que je réponde à la question d'Alain Juppé posée par M. Pujadas ?
Non. David Pujadas, il s'était donné le mot. Vous aviez senti que ça montait ?
Oui, il y avait une forme d'émancipation, disons, parce que c'était le troisième débat, parce que peut-être au premier débat, ils étaient un peu dans leurs petits souliers par rapport aux règles qui, effectivement, n'étaient pas vraiment établies par eux, mais par les diffuseurs. Et là, à trois jours du scrutin, on sentait effectivement qu'il y avait cette forme d'émancipation, donc de prise de liberté par rapport aux règles qui étaient délibérées. Et puis quand l'un le fait, les autres le font derrière, ils ne veulent pas être en reste. Là aussi, j'allais dire, c'est de bonne guerre.
Je m'adresse à l'ancien correspondant à Washington. Entre ces deux débats présidentiels, il y a eu la victoire de Donald Trump. Et il y a eu une forme de levée de bouclier inédite contre la presse et les médias aux États-Unis. Est-ce qu'il n'y a pas eu comme ça un effet de contamination ?
Moi, je pense surtout que la victoire de Trump, qui avait passé l'épreuve du feu des débats au sein du Parti républicain, a peut-être donné des idées à nos candidats de la droite et du centre.
Oui, mais justement, dans les premiers débats, justement, sur la Fox, on entend Donald Trump s'en prendre directement à Megyn Kelly, lieu de s'en prendre à ses adversaires.
Bien sûr. Alors, était-ce son tempérament qui a parlé ou une stratégie de communication, quand Megyn Kelly lui dit « Mais comment pouvez-vous aspirer à être président des États-Unis alors que vous traitez les femmes de truies, d'incapables, etc. » Au lieu de se défendre, il se dit « La meilleure défense, c'est l'attaque ». Et donc, il s'en prend à elle. Il dit « Vous ne me reparlerez plus jamais, je ne viendrai plus jamais dans vos émissions et vous n'existez pas pour moi ».
Mais
il
l'injure. Sonia, prendre le pouvoir sur les journalistes, c'est prendre le pouvoir ?
Bah, c'est perçu comme tel.
Bah oui, c'est perçu comme tel.
Mais souvenons-nous de 2007. Un candidat a fait 18%. C'était la deuxième fois qu'il se présentait. François Bayrou. Il fait largement campagne sur le dos des médias, en disant « Vous, les médias, vous avez décidé que ce serait un affrontement entre Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy. Vous avez décidé que le système bipartisan était figé pour toujours. Moi, je suis celui qui vient troubler le jeu. Je viens remettre en cause vos certitudes. » C'était déjà son registre. Donc, j'allais dire, c'est vieux comme le monde. C'est vieux, en tout cas, comme les médias.
Alors, justement, je vais m'adresser à une jeune femme qui n'est pas vieille comme le monde, parce que on sent bien que dans ce qui monte, là, dans cette contestation, ce rejet des journalistes, évidemment, les boucs émissaires sont les journalistes qui sont chacun de votre côté, c'est-à-dire des journalistes qu'on connaît en long, en large et en travers. Vous, vous êtes un nouveau visage. Et quand on est un nouveau visage, on a une carte à jouer, justement, dans ce concert, dans ce brouhaha extrêmement négatif.
Elle est en train d'essayer de nous traiter de vieilles institutions.
Oui, c'est ça, exactement.
Merci. Pas très sympathique pour mes deux voisins. Non, est-ce qu'on a une carte à jouer ? Je ne sais pas. Je pense qu'il y a un ton qui est celui de ma maison, France Inter. Et après, je suis peut-être pas non plus... Enfin, on fait de plus en plus de radio filmée. Est-ce que je suis un nouveau visage ? À la télé, oui, mais pour tous ceux qui sont allés sur le site internet de France Inter, non.
Résultat demain matin. Alors évidemment, cette réaction des hommes politiques face aux journalistes, elle a été largement commentée. La question posée par vous, David Pujadas, à Nicolas Sarkozy et sa réponse aussi.
Avez-vous, oui ou non, reçu de l'argent liquide de Libye pour financer votre campagne de 2007, comme l'a affirmé l'intermédiaire Ziad Takieddine, alors pas seulement dans les médias, mais à la justice française hier aussi.
Quelle indignité. Nous sommes sur le service public.
Vous en avez parlé vous-même hier soir.
Vous n'avez pas honte de donner écho à un homme qui a fait de la prison et qui est un menteur. Ce n'est pas l'idée, voyez-vous, que je me fais du service public.
Pourquoi ne pas avoir répondu à votre tour, David Pujadas ?
Ce n'est pas une interview de Nicolas Sarkozy. Certains me reprochent d'avoir posé la question, d'autres me reprochent de ne pas y avoir passé 5 minutes.
Mais vous avez choisi de faire de cette information une question. Pourquoi ne pas l'assumer jusqu'au bout ? Pourquoi ne pas lui rappeler que vous êtes dans le questionnement
six autres journalistes
et que c'est légitime ?
Qui sont là et qui vont assister passifs à finalement une forme d'interview. Voilà, après, chacun peut avoir son appréciation.
Alors, justement, vous avez trois thèmes ce soir, hein, la fonction présidentielle, l'avenir de la France, la politique internationale, Alexandra Ben Saïd. Où se loge l'économie dans ces trois thèmes?
Elle se loge partout. Elle se loge partout. Ah, oui. Non, mais l'économie est partout. Je veux dire, c'est... Depuis la crise, ça y est, on le vit au quotidien. Les questions économiques, elles sont partout. Elles sont dans l'école, elles sont dans l'hôpital. Ce soir, ce qu'il va falloir obtenir sont des réponses précises. Mm-hmm. On a des programmes face à nous. Ce sont des programmes de droite, très durs pour certaines parties. Voilà, on veut comprendre un peu mieux. Je crois que c'est la philosophie des trois journalistes que vous avez en face de vous.
Alors, on veut des réponses. Voilà, alors là, vous mettez clairement l'économie au cœur du débat. C'est extrêmement intéressant parce qu'on sort d'une séquence médiatique où Nicolas Sarkozy a tenu le haut du pavé médiatique. Et toute la technique et toute la stratégie de Nicolas Sarkozy, c'était justement de sortir l'économie du champ de ses campagnes. Non,
David Pujadas, vous n'êtes pas d'accord? Parce qu'en même temps, il faisait de sa spécificité économique, c'est-à-dire une baisse de l'impôt sur le revenu pour tous, sa singularité. Donc il a aussi pas mal insisté là-dessus.
Vous ne diriez
tout,
pas les uns et les autres que la patte de Patrick Buisson, ça a été justement de ramener toutes les questions sociétales au cœur de la campagne.
Non, mais ça c'est un credo, ouais, j'allais dire, de Nicolas Sarkozy, ouais, depuis des années. Des années, il est plus à l'aise sans doute sur les sujets régaliens que l'économie. Mais cette campagne-là, elle a quand même été très économique aussi.
Oui, parce que en filigrane de la campagne, il y avait « Ce pays est épouvantablement mal géré depuis 5 ans et nous, candidats de la droite et du centre, on va rectifier le tir ». Et puis dans le sous-sujet qui se présente à nous, qui était la stratégie de dernière ligne droite de Nicolas Sarkozy, il y avait « Je vais baisser de manière indiscriminée pour tous les impôts de 10% ». Et alors là, tous les autres candidats, la droite, la gauche, lui est tombé dessus en disant « Mais attendez, ça fait 7 milliards par an ». Et là, en désespoir de cause, Nicolas Sarkozy a dit « Mais les déficits, on s'en moque, je prendrai un avion, j'irai à Bruxelles, j'irai à Berlin voir Angela Merkel, on se débrouillera ». Donc, il y avait de l'économie.
Alors justement, Alexandra Ben Saïd, vous avez deux ultralibéraux l'un en face de l'autre. Comment les différencier sans surfer sur la caricature que l'un, Alain Juppé par exemple, fait de l'autre, François Fillon?
Il faut avoir des réponses précises. Voilà, vous voulez supprimer tant de fonctionnaires, mais où? Quel métier? De quoi est-ce qu'on parle? Il faut avoir des réponses précises là-dessus. Il faut aussi leur demander leur solution pour le chômage. Dans 5 ans, où est-ce qu'on en sera? Parce que pour l'instant, on a eu un discours très très comptable quand même. Ce qu'on voudrait avoir, c'est, vous nous dites qu'on va aller mieux grâce à vous. Nous voudrions éprouver la crédibilité et la faisabilité.
Alexandra Ben Saïd, on est morte de trac pour sa première télé?
On n'est pas morte de trac, parce que quand même on fait un peu de l'économie depuis pas mal de temps.
C'est clair.
Non, on apprend avec la bienveillance, et je le dis sincèrement, la grande bienveillance de ces deux confrères beaucoup plus fortement capés en télé.
Merci à tous les trois. Alors ce soir, le débat France Inter, TF1, France 2, c'est la fin de l'Instant M. Bonjour Ali Rebéi.
Bonjour Sonia.
Alors, vent bien vous fasse.
Comment lutter contre les clichés, les préjugés sur le handicap? N'hésitez pas à témoigner au 01 45 24 7000, 01 45 24 7000.
Juste après les infos.